Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour mon ami, bienvenue. Je vais partager avec vous quelques réflexions tirées du livre des Philippiens. Je vais particulièrement m'attarder sur le chapitre 2. Je tiens à vous prévenir que ce que nous allons lire est extrêmement riche et regorge d'informations et de révélations importantes. J'aimerais vous encourager. Vous pensez peut-être à plein d'autres choses, vous êtes peut-être en train de travailler sur quelque chose, mais si vous acceptez de passer les 25 ou 30 prochaines minutes avec moi et à écouter attentivement, je crois que cela peut avoir un impact sur vous. Non pas parce que je suis un orateur fantastique, mais parce que nous allons lire la parole éternelle de Dieu et en parler ensemble. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas bien faites dans ma vie, mais il y en a une que j'ai bien faite. J'ai fait de la parole de Dieu l'autorité ultime dans ma vie pour toutes les questions de conscience et de vie. Je passe du temps dans le livre de Dieu chaque jour et je le fais depuis près de 50 ans. Cela a changé ma vie et m'a rapproché de Dieu plus que toute autre chose. Oui, je prie, oui, je vais régulièrement à l'église, oui, je donne à Dieu le premier et le meilleur de tout ce que j'ai. Il y a beaucoup d'autres éléments de la vie spirituelle. Oui, je parle de Jésus à d'autres personnes et je diffuse l'Évangile. Mais pour moi, personnellement, quand il s'agit de ma croissance, de ma relation et de mon intimité avec Dieu, tout tourne autour de l'histoire d'amour que je vis avec le livre de Dieu depuis près de 50 ans. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un pense, s'il a écrit un livre, il suffit de lire son livre. Mes paroles sont une révélation de mes pensées. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense, lisez sa parole. Dans les Écritures, Dieu dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Mais ce n'est pas le sujet de ce chapitre de la Bible. Si vous le lisez, Dieu ne dit pas « Vous ne pouvez jamais connaître mes pensées ». Il dit « La pluie descend du ciel et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire. » Il dit « Ma parole descend et elle porte du fruit. Ses paroles sont une révélation de ses pensées. » Nous allons examiner certaines des pensées que Dieu a transmises de manière surnaturelle à l'apôtre Paul par le Saint-Esprit et qui sont consignées dans le livre des Philippiens. Je vais commencer par lire Philippiens 2, 1 et 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, et Paul écrit depuis une prison romaine aux croyants de Philippe, si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Il les supplie en quelque sorte, il leur dit, si Jésus a fait quelque chose pour vous, si l'amour de Dieu vous a aidé, si vous écoutez le même Saint-Esprit que moi, si vous vous souciez des autres, si vous avez un cœur. Puis finalement, il dit, faites-le pour moi. Un tel torrent d'émotions jaillissait du cœur de Paul vers les personnes qu'il aimait, les suppliant d'être unis. L'unité est tellement importante. C'est le diable qui veut diviser. C'est le diable qui veut semer la discorde et la division parmi le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit apporte l'unité et nous devons nous efforcer de maintenir l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Je vais vous lire un passage du psaume 133. Ce psaume ne comporte que 3 versets, mais il parle de l'importance de l'unité. Verset 1. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Il est bon et agréable que les frères soient unis. Cela signifie qu'il est mauvais et désagréable que les gens ne soient pas unis. Au verset 2, il poursuit en disant que l'unité entre frères, c'est comme l'huile précieuse sur la tête, qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. Cette huile représente le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Lorsque les gens sont unis, l'onction du Saint-Esprit vient. Ici, Aaron, le grand prêtre, est une figure du corps de Christ. Lorsque nous sommes unis, l'onction du Saint-Esprit commence sur la tête et descend jusqu'au bord des vêtements. Cela signifie que le Saint-Esprit reposera sur chaque personne appartenant au corps de Christ. Même le plus nouveau membre de l'Église, même le plus petit membre de l'Église aura l'onction du Saint-Esprit sur lui. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit vient, le miraculeux vient. Lorsque le Saint-Esprit vient, le réconfort vient. Lorsque le Saint-Esprit vient, la paix vient. Mais sans unité, nous n'aurons pas l'huile du Saint-Esprit. Au verset 3, il dit, comme la rosée de l'Hermon, en parlant de rafraîchissement, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ainsi, lorsque nous sommes unis, cela apporte l'onction de l'Esprit, cela apporte un rafraîchissement. Il est écrit « là », c'est-à-dire dans le lieu de l'unité, là où les frères sont rassemblés et vivent ensemble dans l'unité. Là, Dieu ordonne une bénédiction. Il y a une grande bénédiction dans l'unité. Il a dit « la vie pour l'éternité », ce qui signifie que les gens connaîtront la vie éternelle lorsque l'Église sera unie, lorsque nous mettrons de côté nos querelles insignifiantes, lorsque nous nous efforcerons d'être unis dans l'Esprit. Lorsque nous choisissons de ne pas nous laisser offenser ou aigrir, mais que nous supportons les défauts et les fautes des autres, et que nous restons dans l'unité. Dieu accorde ainsi une bénédiction et les gens seront sauvés. La lumière glorieuse de l'Évangile brillera sur les gens et nous verrons que des gens recevront la vie éternelle. Revenons à Philippiens 2:2 et lisons ce qu'il dit ensuite. Rendez ma joie accomplie que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Verset 3. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est la même expression qu'il utilise en Philippiens 1:15, « esprit de dispute ». En grec, cela signifie littéralement un politicien qui fait campagne pour obtenir un poste et qui fait des promesses électorales qu'il ne tiendra pas. Leur seul but est d'obtenir une promotion et d'accéder à une position confortable. Il dit « ne faites pas cela parce que vous cherchez à avoir des adeptes ou à vous faire connaître. Ne laissez pas l'égoïsme ou l'arrogance motiver vos actions. N'essayez pas de vous imposer ou de manipuler les autres pour vous mettre en avant. Au contraire, faites passer les autres avant vous. » Je vais vous lire le verset suivant, le verset 4, mais je tiens à relire le verset 3 qui est très important. « Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. » C'est quelque chose que notre génération a besoin d'entendre. Au lieu d'agir avec arrogance, comme si nous n'avions aucune lacune, aucun déficit secret, aucun défaut ou aucune lutte intérieure, espérons charitablement qu'il n'en va pas de même pour les autres. Espérons qu'ils ont un cœur plus pur que le nôtre. Agissons et pensons avec une véritable humilité et intéressons-nous activement à aider les autres à progresser. Mon ami, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que disent les Écritures. Ayez une meilleure opinion des autres que de vous-même. Lorsque notre plus jeune fils, Spencer, était à la maternelle, on m'a demandé un jour de venir en classe pour aider les enfants. J'avais tous les garçons de la classe, et pour ma tâche, je prenais trois garçons à la fois, les autres faisaient autre chose, et j'aidais les trois garçons à fabriquer quelque chose à partir de morceaux de bois. C'était un projet créatif pour aider les garçons à réfléchir et à créer. Nous avons fabriqué des avions, des maisons, des anges, des voitures, des bateaux et des tables. Encore une fois, trois enfants à la fois. Presque tous les enfants étaient complètement absorbés par la construction de leurs propres objets. La plupart d'entre eux voulaient mon attention et ils la voulaient tout de suite. Monsieur Conley, j'ai besoin de ça. Monsieur Conley, qu'est-ce que je fais avec ça? Sans se soucier des deux autres garçons à côté d'eux et de ce qu'ils faisaient. Presque tous les enfants m'appelaient sans cesse et ne pensaient qu'à ce qu'ils voulaient. Seuls quelques-uns ont patiemment attendu leur tour. Ils ont attendu patiemment que je termine avec un autre. Je leur faisais des suggestions et les aidais à assembler quelque chose, ou je leur disais « As-tu pensé à cela? Nous pourrions faire une table si tu faisais cela. » Seuls quelques-uns d'entre eux ont attendu, et un seul garçon de toute la classe m'a aidé à trouver des morceaux pour les autres garçons. Il a donné la priorité à leur projet, un seul enfant. Il pensait à eux et disait « Voici un objet que vous pourriez utiliser comme roue, Monsieur Conley. » Ou encore « Voici, cela pourrait bien servir d'aile. » C'était le seul. J'étais très impressionné par cet enfant. Quand son tour est venu, j'ai fait de mon mieux pour l'aider à créer quelque chose de vraiment spécial, qui surpassait tout ce que les autres élèves avaient fait. Beaucoup d'adultes continuent à avoir cette mentalité d'enfant tout au long de leur vie. Ils ont une mentalité d'enfant lorsqu'il s'agit de relations, d'affaires, de ministères et de mariages. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Paul supplie les chrétiens en Philippiens, « Estimez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Ne vous préoccupez pas seulement de vos propres intérêts, mais aussi de ceux des autres. » En vérité, lorsque Dieu trouve quelqu'un qui s'humilie et fait passer les autres avant lui, il l'exalte. C'est un principe immuable dans les Écritures. Prenez l'exemple du roi Saül. Il était le premier roi d'Israël, il était humble et ne voulait pas de cette fonction. D'ailleurs, lorsqu'ils allaient loindre le roi, il s'est caché et ils ont dû partir à sa recherche. C'était un souverain réticent, mais pas pour longtemps, car ce même Saül allait ériger des monuments à sa propre gloire. Le prophète Samuel est venu lui dire « Saül, Saül, alors que tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Mais maintenant tu ériges des monuments à ta propre gloire. » C'était le début de la fin pour Saül. Dieu lui retira son royaume et le donna à un homme meilleur que lui, un petit berger nommé David. La Bible dit que si nous nous humilions devant le Seigneur, il nous élèvera. À partir de là, Paul nous donne la raison suprême et l'exemple pour garder un esprit humble et marcher dans l'unité. Je voudrais vous lire ces versets tirés de la Bible classique amplifiée en anglais. Ils sont tellement riches et puissants. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous-même les mêmes dispositions, le même esprit et la même humilité qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple d'humilité. Lui qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu et ayant la forme de Dieu possédant la plénitude des attributs qui font que Dieu est Dieu, n'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à conserver. Mais s'est dépouillé de tous ses privilèges et de sa dignité légitime, afin de prendre l'apparence d'un serviteur, esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Et après être apparu sous une forme humaine, il s'est abaissé et humilié encore davantage et a porté son obéissance jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, sur la croix. C'est pourquoi, parce qu'il s'est abaissé à ce point, Dieu l'a élevé et lui a donné librement le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse franchement et ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est humilié et a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Il est apparu sous forme humaine, il existait depuis toujours avec le Père. Il était Dieu à tout égard. L'humanité avait besoin d'un Rédempteur. Alors, dans la salle du Conseil céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont élaboré un plan. Jésus a dit « J'irai ». Il savait ce que cela signifiait. Je l'imagine là-bas. Il quitte la salle du trône et marche dans le couloir. Pour la première fois, il semble triste. Je vois des anges debout au garde-à-vous. Ils se demandent ce qu'il se passe. Peut-être échangent-ils un rapide regard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Nous n'avons jamais ressenti cela auparavant. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Le Fils semble presque triste. Je m'imagine Jésus marcher dans ce long couloir. Il arrive devant des portes, elles s'ouvrent, et dans mon esprit, je l'imagine se retourner comme pour regarder le Père une dernière fois. Et soudain, il disparaît. À ce moment-là, l'ange Gabriel s'adresse à une jeune vierge nommée Marie, en terre d'Israël, et lui dit « Tu vas donner naissance au Fils de Dieu, tu l'appelleras Jésus. Comment ? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Elle répond « Que ta parole s'accomplisse pour moi » et à ce moment-là, le Fils de Dieu a été conçu dans son ventre. Il n'est pas né dans un palais royal, mais dans une étable. Il n'est pas devenu le fils d'un noble, mais il a été élevé par un pauvre charpentier et sa femme. C'est vraiment plus que ce que le cœur peut supporter. Il a pris l'apparence d'un serviteur. Il a été fait à l'image des hommes. Non pas qu'il n'était pas humain, il l'était. Mais il était aussi divin. Il s'est simplement dépouillé de tous ses privilèges et de sa dignité légitime. Il est venu vivre dans un corps d'argile. Mon ami, pas seulement pour un temps. Jésus aura ce corps ressuscité et il portera toujours les cicatrices des clous. Sur son côté, la cicatrice ou la lance l'a transpercé. Sur ses pieds, les cicatrices des clous. Car nous savons qu'après sa résurrection, il est apparu aux disciples et à Thomas, qui doutait. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Notre Sauveur, le Fils de Dieu, divinité éternelle, portera à jamais les cicatrices de notre rédemption. Dans l'éternité, son corps sera le seul corps à porter des cicatrices. La suite du verset dit qu'il est mort sur la croix dans la honte, le déshonneur et la douleur, et qu'il l'a fait pour vous. Il est mort comme un criminel parmi les voleurs. Quelle humiliation pour le Fils de Dieu sans tache, battu, ensanglanté, dépouillé de ses vêtements et cloué sur une croix. Parce que Jésus s'est humilié, nous le lisons en Philippiens, le Père l'a élevé. Nous devons garder à l'esprit que Paul a dit que nous devons avoir en nous le même esprit qui était en Jésus. Nous devons adopter la même attitude, nous humilier et faire passer les intérêts des autres avant les nôtres, tout comme Jésus a fait passer nos intérêts avant les siens. Si nous faisons cela, Dieu, par son esprit, nous élèvera et nous mènera là où nous devons être. Mon ami, vous n'avez pas besoin de jouer des coudes, vous n'avez pas besoin de manipuler ou d'écraser les autres pour obtenir un poste. Au moment opportun, Dieu ouvrira des portes que nul ne pourra fermer. Il remplira nos voiles du vent du Saint-Esprit et nous conduira vers le havre que nous désirons. Mais revenons un instant aux déclarations concernant l'étonnant Fils de Dieu. Il a été élevé et exalté au-dessus de tous les autres, tant en honneur qu'en puissance, et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas une coïncidence si certains d'entre vous m'écoutent en ce moment. Vous devez faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Seigneur signifie patron, et cela signifie que vous devez être prêt à renoncer à vos droits à une vie indépendante et à vous soumettre à sa seigneurie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Vous ne me regarderiez pas en ce moment si Dieu ne travaillait pas en vous. Ne laissez pas le diable vous convaincre que vous devez simplement semer un peu plus de graines de folie, comme on dit ici aux États-Unis, que vous devez vivre un peu plus follement et vous amuser un peu plus, puis vous donnerez votre vie au Seigneur. Vous savez que c'est juste. Non, plus vous attendez, plus votre cœur s'endurcit, et c'est un mensonge de toute façon. Certains disent, si tu donnes ta vie à Jésus, cela enlèvera tout le plaisir et toute la joie de ta vie. On n'a jamais dit plus grand mensonge. Il n'y a pas de plus beau voyage que celui de marcher aux côtés de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande aventure que celle-là. Il est le créateur de l'univers, mon ami. C'est le diable qui dit des mensonges. Oui, la Bible dit que le péché procure du plaisir pendant un temps, mais ce temps finit toujours par passer. Au début, le péché promet toujours de plaire et de servir, mais à la fin, il a servi et domine toujours. Ma chère amie, madame, donnez votre vie au Seigneur. Monsieur, donnez votre vie à Jésus. Vous ne le regretterez jamais. Vous me regardez peut-être en ce moment et vous avez un grave problème de toxicomanie. Je vous garantis que Jésus-Christ peut vous libérer. Il peut vous purifier et briser les chaînes de la dépendance. Vous me regardez peut-être en ce moment et vous avez une grave dépendance à l'alcool. Jésus peut briser cette dépendance dans votre vie. Je parle d'expérience, je suis passé par là. Jésus m'a libéré et il peut le faire pour vous aussi. Peut-être avez-vous vécu un divorce terrible. Avez-vous été rejeté et ne faites-vous plus confiance aux hommes? Ou peut-être que votre ex-femme ou votre ex-mari vous a brisé le cœur et vous avez l'impression d'être désormais une personne brisée. Peut-être avez-vous été maltraité. Peut-être vous a-t-on menti. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il ne se contentera pas de mettre des pansements sur vos blessures. Il vous rendra nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ami, Dieu vous aime, il vous aime. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Vous devez vous soumettre à sa volonté et le reconnaître comme Seigneur. D'ailleurs, maintenant, je vous mets au défi de prier avec moi. Cela demandera du courage à certains d'entre vous, car vous savez que si vous vous engagez pleinement, certains de vos amis ne l'apprécieront pas. Oui, les choses vont changer. Cela commence par vous. Le changement vient de l'intérieur et il a des conséquences. Nous avons lu dans le livre des Philippiens que ces Philippiens ont donné leur vie à Christ. Paul dit, « Vous avez vu que j'ai été persécuté, nous avons été emprisonnés, et maintenant vous goûtez à certaines de ces mêmes choses. » Mais mon ami, cela en vaut la peine. Nous ne sommes ici que pour un instant, puis nous serons au paradis pour l'éternité. Et il n'y a aucun moyen de décrire la gloire d'une éternité avec Dieu. Les choses les plus incroyables que vous puissiez imaginer n'en sont même pas proches. Si Jésus est votre Seigneur, vous ne vous ennuierez pas. Alors, voulez-vous prier avec moi? Priez avec moi, sérieusement, peu importe où vous êtes. Vous êtes peut-être assis dans un bar, vous venez de finir votre deuxième ou troisième verre, et vos amis sont là. Quelqu'un a allumé la télévision dans le bar et vous regardez. Je vous mets au défi devant vos amis de vous lever. Posez votre main sur votre cœur et priez avec moi. La dame qui est dans son appartement, la famille qui regarde la télévision chez elle, l'homme d'affaires qui est à l'hôtel, posez votre main sur votre cœur et priez avec moi. Dites à voix haute, « Oh Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils. » Dites-le. Je crois qu'il est venu dans ce monde. Je crois qu'il est mort sur la croix et qu'il a payé pour tous mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Et maintenant, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, entre dans ma vie. Purifie-moi. Donne-moi une nouvelle vie. À partir de cet instant, Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Racontez à quelqu'un ce que vous avez fait. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Envoyez-nous un email, écrivez-moi une lettre. J'aime recevoir des lettres à l'ancienne, mais faites-le nous savoir. Nous ferons de notre mieux pour correspondre avec vous, vous aider et peut-être vous envoyer des ressources qui pourront vous être utiles. Nous connaissons peut-être une église dans votre région avec laquelle nous pouvons vous mettre en contact. En attendant de vous revoir, que Dieu vous bénisse.
Souhaitez-vous relire la diffusion, tranquillement, à votre rythme? Téléchargez dès maintenant le texte du message sur bless-conly.fr/texte. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez que nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet.